Savez-vous que Montesquieu fut aussi franc-maçon ? Monique Brumeau-Cassin nous éclaire aujourd'hui sur cet aspect moins connu de la vie du philosophe des Lumières. Bonjour Monique.
Bonjour.
Dévoilez-nous donc cet aspect.
Eh bien, resituons le mouvement de la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle.
Très bien.
En 1717, les loges de Londres prennent le relais d'Écosse et d'Irlande. On y trouve des artisans, commerçants, capitaines de navires, rejoints très vite par des intellectuels, des pasteurs et des nobles. La très savante Académie de Londres, la Royal Society, comporte une grande part de francs-maçons dans ses rangs. Tous ces personnages vont et viennent souvent retrouver à Paris, à Saint-Germain-en-Laye, les descendants du roi Charles Ier d'Angleterre, destitué, et son épouse Henriette de France, tante de Louis XIV, qui héberge cette cour en exil. En juin 1726, c'est par un noble lié aux Stuarts que la première loge parisienne est créée, puis une seconde 3 ans après, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, où réside Montesquieu. En 1735, on a le compte rendu d'une tenue de loge à laquelle il assiste. Parmi les hauts dignitaires anglais, nombreux sont, depuis les années 25-28, des amis personnels du baron, notamment le très brillant Lord Richmond, Lord Waldegrave, l'ambassadeur qui l'a conduit en Autriche, ou encore Lord Montagu. Il faut bien comprendre que ces sortes de clubs, assez élitistes, sont rendus secrets par la police de Louis XV, redoutant ces réunions où l'on entre qu'en montrant patte blanche, elle les traque régulièrement. En effet, c'est un terrain propice à l'émergence des idées nouvelles et critiques envers le pouvoir. Tellement on y trouve d'intellectuels et d'hommes influents. Entre 26 et 34, plus de 500 francs-maçons sont affiliés à 22 loges parisiennes et 200 loges provinciales, soit environ 4000 frères. Le mouvement participe à l'élan du siècle des Lumières. Bordeaux n'est pas en reste, et cette ville réputée frondeuse va voir sa première loge créée en 1732 par des maçons anglais. Revenons au séjour de Montesquieu en Angleterre en 1931. Il n'y a pas de hasard dans son initiation. Venant d'être élu membre de la Royal Society en février 1730, il est reçu frère maçon le 12 mai 1731. Les ducs de Montagu et de Richmond sont là, ils sont déjà grands maîtres de la loge londonienne. Cette époque de sa vie constitue un tournant dans ses pensées sur la tolérance religieuse, son intérêt pour la constitution anglaise, ses réflexions sur les causes scientifiques de la nature de l'homme. Les discussions d'inspiration maçonnique ont favorisé son engagement dans un cercle d'initiés qu'il apprécie et côtoie depuis plusieurs années à Paris. À son retour en France, il va assister à des tenues de loge à Paris et comme il est de tradition, les gazettes anglaises en font les comptes rendus et citent les présents. Que du beau monde! Nous lui suivons en 34-35 et aussi dans des correspondances passionnantes au ton très libre entre Richmond et Montesquieu. Mais cette dizaine d'années assez tolérantes va cesser car c'est l'heure de la répression des libres penseurs, encyclopédistes et autres écrivains critiques. Le clergé, le roi, le pape ne tolèrent plus ces sociétés secrètes que l'on ne peut ni museler ni manipuler. Interdiction de réunion publique à Paris, arrestation, amende, le pape condamne la franc-maçonnerie et menace même d'excommunication. Dans les loges, c'est la panique. Pour la première fois, les frères se cachent et le secret s'installe. À Bordeaux, l'intendant du roi, celui qui détestait Montesquieu depuis l'affaire de l'arrachage des vignes, ne manque pas de zèle à son égard. Il le dénonce au cardinal Fleury, Premier ministre, en tant que franc-maçon en avril 37. Montesquieu est informé que même le roi est mécontent et on lui défend de se mêler à ses groupes. Il va dès lors se faire plus discret sur ses liens, maintenus ou pas, avec les loges bordelaises et parisiennes qui, malgré la répression amplifiée dans les années suivantes, vont continuer à se créer, non plus dans une salle d'auberge louée comme au début, mais au domicile de tel ou tel frère, secrètement. Notre homme de lettres est sensible à ces menaces, car elles peuvent atteindre sa famille, qui compte beaucoup pour lui. Il se replie des 38 de toute façon en son domaine et se met à rédiger de l'esprit des lois pendant près de 10 ans. Puis ce sera la nécessaire rédaction de sa « Défense de l'esprit des lois » publiée en 1750 pour répondre aux féroces attaques des jésuites, des jansénistes, de la Sorbonne et du Vatican. Et c'est là que Madame de Pompadour lui a rendu service. Le roi l'a laissé tranquille.
Très bien.
Les centres d'intérêt de sa vie ont changé. Ses pensées vont s'exprimer non plus en discussion, mais dans ce qu'il écrit et publie. Mais rien ne peut laisser croire qu'il ait renié son appartenance à la franc-maçonnerie éclairée de son temps.
Merci beaucoup Monique pour cette chronique passionnante. Demain, nous parlerons d'un ami du Périgord. À demain.
Au revoir.